Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis très content de pouvoir venir vous parler de Parvovirus B19 aujourd'hui. Donc, j'ai la chance de vous faire deux présentations d'affilée. Donc, la première présentation, je vais vous présenter en fait une étude de cohorte multicentrique qu'on a partagée avec les collègues de l'hôpital Antoine Béclair et Alexandre Vivanti notamment, et puis d'autres centres en Europe. Et donc, on s'est attaché à prédire le devenir. Après transfusion in utero, est-ce qu'on pouvait identifier des facteurs pronostiques après transfusion in utero pour anémie sur parvovirus B19? Je vais passer sur ce que Christelle vous a dit, simplement l'impact sur l'activité transfusionnelle. Vous voyez ici donc, le nombre de transfusions in utero qui ont été faites dans le nord de l'Europe pour parvovirus B19. On voit qu'on est à moins d'une quinzaine depuis 2010, et puis en 2023 et en 2024, on explose complètement les compteurs. Et de la même façon, on voit qu'à la fin de l'été, au début de l'hiver 2023 et au printemps 2024, on atteint également des nombres de transfusions in utero par mois qui n'avaient jamais été atteintes jusque-là. De la même façon, dans les cas de fœtus transfusés au CNRHP, alors on est remonté jusqu'à 2002 et en 2024, donc on voit très nettement qu'on était à 6 au maximum par année par nombre de fœtus transfusés, et en 2023, 9, et en 2024, 23, et c'est même 24 puisqu'on en a transfusé un il n'y a pas très longtemps. Et ça, je vais passer. Donc la physiopathologie, le virus donc, va cibler spécifiquement les progéniteurs érythroblastiques fœtaux par le biais de l'antigène P qui est un récepteur pour le virus. Le virus va pénétrer dans l'érythroblaste et il va y avoir une destruction des érythroblastes qui va entraîner une anémie arégénérative. Il va y avoir une atteinte possible également des plaquettes, et puis il y a possibilité, un tropisme spécifique du virus pour le cerveau fœtal et pour le cœur fœtal également aussi. L'histoire naturelle, donc il y a la moitié des femmes qui ne sont pas immunisées. On estime hors épidémie qu'il y a 2 à 10% de séroconversion pendant la grossesse, et on estime qu'il y a à peu près 15 à 30% de passage transplacentaire en cas d'infection maternelle, avec un risque qui est surtout celui de la mort fœtale avant 20 semaines sur un mécanisme qu'on n'a pas très bien identifié. Après 20 semaines, c'est plus le risque de l'anémie sévère et de la nasarque notamment. Ou de l'hydrops. Donc comment est-ce qu'on explique cette hydrops et cette anémie en lien avec une anémie sévère? Comment est-ce qu'on explique cette anémie particulièrement sévère? Donc l'hypothèse, c'est que l'hématopoïèse du fœtus, elle est intrahépatique majoritairement et notamment au deuxième trimestre de la grossesse. C'est une période au cours de laquelle la masse sanguine du fœtus augmente extrêmement fort, et une période au cours de laquelle la demi-vie des globules rouges du fœtus est plus courte. Du coup, on imagine facilement comment un arrêt brutal de l'érythropoïèse peut générer une anémie extrêmement sévère, avec des fœtus qui vont pouvoir avoir des anémies très profondes. Et on voit ainsi la distribution du risque d'hydrop en fonction du terme auquel survient l'infection fœtale. Quelques mots de prise en charge. Donc, la surveillance après séroconversion maternelle, c'est la surveillance de l'anémie fœtale qui repose sur le pic systolique de vélocimétrie à l'artère cérébrale moyenne et la recherche des épanchements, voire de la nasarque. Et lorsqu'on suspecte une anémie fœtale, il va falloir se poser la question de faire une transfusion in utero à partir de 16 semaines d'aménorrhée théoriquement. Et les issues après transfusion in utero, ce qui est publié, c'est un risque déjà de mort fœtale qui est très important, qui est largement plus important que ce qui est rapporté pour les transfusions pour anémie alloimmune, où on est sur une survie qui est largement au-dessus de 95%. Dans le parvovirus B19, on a des survies qui sont de 80%, un petit peu plus parfois, les chiffres sont variables dans la littérature. Et puis, lorsqu'il n'y a pas de mort fœtale, il y a un risque de lésions cérébrales qui peuvent être parfois de mauvais pronostics et aboutir à une interruption médicale de la grossesse si c'est le choix des couples, et c'est dans plus de 20% des cas. Donc voilà ce qu'on peut considérer comme issue défavorable. Et les facteurs pronostiques qui sont documentés dans la littérature, c'est notamment l'hydrops qui est largement associé à un mauvais devenir au sens large pour le fœtus et pour le nouveau-né. Et puis récemment, il y a une cohorte allemande qui est sortie, qui s'est intéressée à déterminer les facteurs pronostiques associés à un mauvais devenir, à une mort fœtale après transfusion in utero. Et ce qui ressortait, c'était l'hémoglobine initiale, le taux de plaquettes notamment. Donc l'étude que je vous présente ici, c'est une étude de cohorte observationnelle multicentrique qui inclut des patientes entre 2010 et 2024, donc des cas de fœtus transfusés pour parvovirus B19 qui étaient en anasarque systématiquement avec une infection parvovirus documentée dans le liquide amniotique ou dans le sang fœtal. Et donc il y avait 8 centres, 3 centres en France, 5 centres en France, 2 centres en Belgique et 1 centre en Suisse. Et l'objectif principal, donc, c'était d'identifier des facteurs pronostiques d'issue défavorable. Et l'issue défavorable était définie comme la mort fœtale, une interruption médicale de la grossesse pour une cause en lien avec le parvovirus, un décès néonatal ou une lésion cérébrale anténatale jugée de mauvais pronostic. On a inclus 78 patientes. Le terme au diagnostic était de 22 semaines d'aménorrhée en médiane, avec un IMC maternel à 23,3, des patientes qui avaient un âge médian de 30 ans, 30% de symptomatologie maternelle et une notion de comptage dans 35% des cas. Pour ce qui était des transfusions in utero, donc tous les fœtus ont été transfusés évidemment, 51% ont été transfusés à 2 reprises, 10% à 3 reprises et 3% à 4 reprises. Le terme médian à la première transfusion était de 22,6 semaines d'aménorrhée. Et l'hémoglobine fœtale à la première transfusion était de 2,7 grammes par décilitre. Et le type de ponction était majoritairement transplacentaire dans 60% des cas versus transamniotique dans 40% des cas. Pour ce qui est des issues, donc il y a eu une issue défavorable dans 32 cas sur 78, soit 41% des cas, qui se répartissait de la façon suivante. Donc une mort fœtale in utero pour 20 cas, 26%, une IMG dans 9 cas, 12%, une mort néonatale dans 2 cas, 3%, et puis il y a eu une naissance vivante avec lésion cérébrale de mauvais pronostic, donc qui compte comme une issue défavorable. Pour ce qui était de la mortalité périnatale globale, on avait donc 40%, et pour ce qui était des lésions cérébrales de pronostic réservé en IRM, il y en avait 6, 5 qui ont abouti à une IMG et une naissance qui est la naissance vivante que je vous ai mentionnée plus tôt. Pour ce qui est des caractéristiques associées à des issues favorables et défavorables, je vous présente les résultats de l'analyse multivariée. Donc on voit que pour ce qui est des caractéristiques maternelles et virales, il n'y a pas de différence significative sur l'IMC, le comptage, la notion d'un comptage, la présence de signes cliniques chez la patiente ou la charge virale maternelle. Pour ce qui est des caractéristiques échographiques lors de la transfusion in utero, là encore, il n'y a pas non plus de différence significative en termes de présentation échographique en cas d'issue favorable et en cas d'issue défavorable. Pour ce qui est des caractéristiques transfusionnelles spécifiquement, là on a vu qu'il y avait une différence significative d'âge gestationnel à la première transfusion in utero. Et on voit que, en fait, il y a plus d'issues défavorables quand la transfusion in utero survient un petit peu plus tard que quand elle survient un petit peu plus tôt, ce qui pourrait être contre-intuitif par rapport à ce qu'on pourrait penser en termes de difficultés techniques, mais probablement que c'est en lien avec le fait que ce sont des fœtus qui sont diagnostiqués plus tard, pris en charge plus tard et donc plus malades. Les autres caractéristiques statistiquement significatives, c'était, alors excusez-moi, ça a sauté, mais c'est la ligne d'en dessous. Le fait d'avoir une interruption de la transfusion avant la fin de la procédure était également statistiquement associé à un risque, un surrisque d'issue défavorable. Pour ce qui est des caractéristiques biologiques pré- et post-transfusionnelles, là encore, l'hémoglobine fœtale post-transfusion était associée à une issue défavorable lorsqu'elle était plus basse, et également les réticulocytes en pré-transfusionnel en nombre de réticulocytes pour 100, 100 hématies totale, en pourcentage d'hématies totale, excusez-moi. Là encore, plus les réticulocytes étaient augmentés, plus l'issue était favorable. Donc, en analyse multivariée, dans le modèle, on a choisi de mettre ce qui nous paraissait influer, que ce soit qu'on l'ait vu dans notre population ou qu'on le sache dans la littérature sur le devenir. Donc, il y avait le terme à la transfusion in utero, ça, dans d'autres publications, c'est clairement associé à un mauvais devenir. L'hémoglobine pré-transfusionnelle, là aussi, c'est associé à un mauvais devenir, ça a été documenté. Et ce qu'on a voulu explorer, en fait, parce que ça nous paraît très associé au devenir aux issues, c'était l'hémoglobine après une ou deux transfusions. Alors, après une ou deux, parce qu'en fait, En cas d'anémie fœtale sévère, les gens qui font de la médecine fœtale le savent, il est recommandé de ne pas remonter trop rapidement l'hémoglobine du fœtus et de ne pas multiplier son hématocrite ou son hémoglobine par 3 par rapport au taux initial, parce qu'on estime qu'on augmente le risque de décès fœtal en lien avec notamment une surcharge volémique et un surplus de viscosité sanguine qu'on va lui apporter. On a regardé aussi donc, si le type de ponction jouait sur l'hémoglobine, sur l'impact de l'hémoglobine post-transfusionnelle, parce que ça aussi c'est documenté comme étant associé au devenir. Et on a intégré aussi la longueur fémorale dans le modèle comme étant éventuellement un reflet de la croissance fœtale et éventuellement du coup des réserves qu'avait le fœtus par rapport à cette situation. Et donc, lorsqu'on fait l'analyse multivariée, on voit que l'hémoglobine, après une ou deux transfusions, ressort et est très, très, très fortement associée aux issues. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Hein. Après ajustement, on a toujours une corrélation très importante entre la probabilité d'issue défavorable et l'hémoglobine post-transfusionnelle. Donc, on a voulu explorer, finalement, quels étaient les objectifs transfusionnels à atteindre pour pouvoir avoir une issue fœtale favorable. Donc on a regardé l'évolution post-transfusion quand on n'avait qu'une seule transfusion utéro. Donc vous voyez sur le graphique à gauche l'hémoglobine pour les fœtus qui ont eu une évolution favorable. Donc c'est la courbe en rouge, et donc on voit qu'en fait les fœtus qui ont une évolution favorable, ils ont été remontés à 12 grammes, et sur le graphique de droite en médiane, et sur le graphique de droite on voit le pourcentage d'augmentation de l'hémoglobine entre le début et la fin de la transfusion. Là on voit qu'il n'y a pas de différence pour les fœtus qui n'ont qu'une seule transfusion, mais quand on regarde les fœtus qui ont eu deux transfusions, ça ne marche plus, merci. Quand on regarde les fœtus qui ont eu deux transfusions, là, pour l'hémoglobine, il y a encore une différence significative. Et pour le pourcentage d'augmentation de l'hémoglobine, on a une différence significative. Et c'est-à-dire que vraiment, c'est les fœtus qu'on a remonté le plus en hémoglobine par rapport à l'hémoglobine initiale qui ont eu le meilleur devenir. Et on a, quand on regarde, donc 350% d'augmentation, donc c'est beaucoup, hein, ça nous paraît être un pourcentage d'augmentation à viser pour assurer un bon devenir. Donc ça, c'est important comme résultat parce que je vous ai dit qu'en cas d'hydrops, on sait que le risque de mort fœtale est important si on corrige trop rapidement l'anémie. Mais pourtant, du coup, ces résultats, ça nous donne envie quand même de s'évertuer à remonter le plus possible l'hémoglobine des fœtus, parce que c'est ce qui semble, en tout cas dans cette cohorte, être associé au meilleur devenir. Évidemment, en deux fois si nécessaire, en fonction si on a un fœtus qui est très bas en hémoglobine, évidemment. En conclusion, donc, cette étude de cohorte, elle est quand même intéressante parce que d'abord, elle a une taille qui est non négligeable par rapport à ce qui est publié dans la littérature. Évidemment, comme c'est multicentrique, il y a des pratiques qui sont hétérogènes et puis c'est du rétrospectif, donc il y a un certain nombre de pertes de données. C'est l'occasion de voir encore qu'en cas d'anasarc, dans le cas d'anémie sur parvovirus, il y a un risque important d'issue défavorable. Et puis ce facteur prédictif d'issue post-transfusion in utero, donc qui est l'hémoglobine post-transfusionnelle, qui n'est pas tellement décrit, en tout cas en multivarié dans la littérature. Et donc on propose l'objectif de 350% d'hémoglobine du taux final par rapport au taux initial, pour assurer la meilleure issue possible, quitte à ce que ce soit en deux temps, évidemment. Voilà.